Bonsoir. Clôture hier, mercredi à Kampala, en Ouganda, du sommet des chefs d'État et des gouvernements, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CICRGL en sigle. Dans un communiqué final, les chefs d'État et des gouvernements ont décidé, entre autres, de mener des actions vigoureuses pour faire cesser définitivement les combats dans l'est de la RDC. Comment analyser les conclusions de ce sommet? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 9 août 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Baudouin Amouli Kabarouza, coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Monsieur Amouli, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement. Il est le point focal de la coalition des partis d'opposition au Nord Kivu. Maître Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir.
Et Joseph Kongolo avec moi dans ce studio, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Célestin Raoul Bamongoyo. Depuis Kisangani dans la province orientale, le sommet de Kampala sur l'insécurité à l'est de la RDC est une bonne initiative, mais je me demande à quoi serviront les résolutions ou les recommandations formulées à l'issue de celui-ci, d'autant plus que les pays qui y ont pris part sont ceux pointés du doigt comme soutenant le M23. Je vois en cela une très bonne manière de distraire le peuple congolais. Yanis Mulumba, depuis l'Inde, dit ceci. Nous revoilà dans un scénario sans lendemain nous imposé par nos dirigeants. La solution n'est pas dans la force neutre, mais dans la réorganisation du système sécuritaire faible du pays. Car même si cette force arrivait à bout du M23 et FDLR, qu'est-ce qui garantit que d'autres milices ne vont pas voir le jour après? À qui et quoi allons-nous recourir cette fois-là? Merci de nous suivre dans toutes les provinces de la RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radioocapi.net.
Vous le savez, le sommet des chefs d'État et des gouvernements membres de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, s'est clôturé hier à Kampala en Ouganda. Dans leur communiqué final, les chefs d'État et des gouvernements ont décidé de mener des actions vigoureuses pour faire cesser définitivement les combats dans l'est de la RDC. Et cela sans exclure la possibilité des prises des sanctions contre ceux qui bloquent le processus de sécurité. Les grandes lignes des recommandations de ce sommet avec vous, Jacques-Yves Molima.
Les chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont mis sur pied un sous-comité des ministres de défense pour étudier le projet de la force internationale neutre à déployer le long de la frontière commune entre le Rwanda et la République démocratique du Congo afin de combattre les groupes armés dans cette région. Ce comité composé de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, du Congo, de la Tanzanie, de l'Angola et de la République démocratique du Congo sera présidé par le ministre ougandais de la Défense, ont décidé les chefs d'État présents au sommet extraordinaire de la CIRGL qui s'est clôturée ce mercredi 8 août à Kampala. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, les chefs d'État des Grands Lacs ont décidé d'appuyer les efforts du gouvernement congolais dans la recherche de la paix dans sa partie est en proie aux groupes armés qui sèment terreur et désolation. Ils ont unanimement reconnu que la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans l'est de la RDC est provoquée par la rébellion du M23. Le comité mis sur pied doit arrêter des actions urgentes à mener pour faire cesser les combats dans la partie orientale de la RDC. Les participants au sommet de Kampala n'ont pas exclu la possibilité de sanctionner tous ceux qui obscurcissent le processus de sécurité dans l'est de la RDC. Concernant la crise humanitaire provoquée par la détérioration de la situation sécuritaire, les chefs d'État ont décidé de créer un fonds d'assistance humanitaire en faveur de la population congolaise sinistrée de l'est. L'Ouganda a promis de contribuer à ces fonds à hauteur $1 million américains. Présent aux assises de Kampala, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Miss, s'est engagé à travailler avec toutes les parties pour la mise en œuvre des résolutions de ce sommet. Pour le patron de la MONUSCO, le sommet de la CIRGL à Kampala est important et pour la RDC et pour tous les pays de la région des Grands Lacs.
Merci Jacques-Yves Molima, Baudouin Mouli Kabarouza. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La première question que tout le monde se pose aujourd'hui, qu'est-ce que on entend par action vigoureuse?
Je crois que ce qui est important, c'est ce qui a été décidé par les chefs d'État, c'est-à-dire d'agir ensemble. Et agir ensemble comme 11 États de la région des Grands Lacs. Des actions vigoureuses, cela implique plusieurs types d'actions que les ministres auront à examiner. On a mis en place un comité ministériel. Ces sanctions vigoureuses impliquent tout, à la fois des actions militaires ou des actions judiciaires. Donc tout cela est à mettre au compte des actions vigoureuses. Donc les ministres auront l'occasion de descendre sur le terrain, de voir la situation et d'apprécier le type d'action qu'ils mettront en œuvre.
Et donc, si je comprends...
C'est très important. Oui.
Si je comprends bien, en décidant de mener des actions vigoureuses, les chefs d'État et de gouvernement n'avaient pas encore défini clairement c'est quoi ces actions à mener.
Je crois que les chefs d'État fonctionnent avec des gouvernements, et particulièrement en ce cas-ci des ministres de la Défense, à qui les chefs d'État ont donné le mandat de travailler sur le dossier. Donc il appartiendra aux ministres de pouvoir définir des actions concrètes. Il n'y a pas seulement que les ministres, mais il y a aussi le secrétariat exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Sans anticiper sur le type d'actions qu'ils vont mener, je crois que, comme je l'ai dit, ce sont des actions à la fois militaires ou judiciaires ou toutes sortes d'actions qu'ils estimeront pouvoir mener et qui s'adaptent bien à la situation que nous avons ici, c'est-à-dire celle du M23.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre par là que les FRDC n'ont pas mené des actions vigoureuses?
Non, les FRDC sont soutenus. Je crois qu'il faut se rappeler que la deuxième recommandation de Kampala, c'est que les chefs d'État ont décidé de soutenir et d'appuyer les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que l'armée nationale reste la cheville ouvrière de la restauration de cette paix et de cette sécurité. Et je crois que cela a été très bien reconnu. Donc l'armée nationale, c'est notre armée et doit continuer ses efforts de pacification du pays.
Alors, Monsieur Baudouin Mouli, les pays, les chefs d'État ne se sont pas mis d'accord quant à la mise en place de la force neutre, alors que c'était ça que tout le monde attendait de ce sommet, c'est-à-dire connaître la mission et la composition des sept forces. Comment vous expliquez cela?
Au sommet de Addis Abeba, les chefs d'État avaient demandé au secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le professeur Tumbalaba et son équipe, de pouvoir rencontrer l'Union africaine, les Nations unies, afin de définir les modalités de cette force internationale neutre. Alors, le professeur Tumbalaba n'a pas eu beaucoup de jours. Il a eu exactement une vingtaine de jours, 20 jours exactement. Et le professeur Tumbalaba a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, il a pu rencontrer différents gouvernements, il a pu rencontrer l'Union européenne, les différents partenaires, et il a fait rapport à leur référence, les ministres, des résultats de l'ensemble de ces démarches. Et il a été dégagé que les modalités n'étaient pas assez bien approfondies, et qu'il fallait que Monsieur le secrétaire exécutif puisse continuer ce travail des modalités et des moyens, du nombre, etc. Tout ça n'était pas encore défini. Et les ministres ont demandé au secrétaire exécutif de la conférence des Grands Lacs de pouvoir rencontrer encore une fois l'Union africaine et les Nations unies pour achever l'élaboration des modalités de la force internationale neutre. Donc, le travail continue. Le secrétaire exécutif, le professeur Toumbalaba, continue le travail. Mais pendant ce temps, il était important de pouvoir prendre des mesures urgentes, étant donné que la situation s'est détériorée au nord Kivu et qu'il fallait impérativement arrêter les activités militaires du M23. Et c'est pour ça que les chefs d'État de la région des Grands Lacs, à Kampala, ont décidé donc de pouvoir freiner par tous les moyens possibles les activités du M23, les activités militaires du M23, de manière à éviter le drame humanitaire et surtout d'aggraver la situation d'insécurité qui est allée. Donc voilà, je crois que c'est dans cette logique-là qu'il faut lire la situation. Les modalités sont des modalités assez complexes. Vous levez une force de milliers de soldats, il faut absolument avoir non seulement les moyens, mais il faut avoir aussi de la logistique, il faut avoir un programme, un chronogramme assez clair des activités, il faut avoir des mécanismes de coordination, il faut avoir la durée de ces opérations et soutenir l'ensemble de ces opérations. Donc c'est à 20 jours ne suffisait pas pour le professeur Toumbalaba de terminer ce travail. Donc je crois que le professeur continue comme le ministre de Lyon demande.
Alors, il y a des auditeurs qui nous écrivent, c'est le cas de Célestin Raoul de Kisangani, qui dit ceci, le sommet de Kampala sous l'insécurité à l'est de la RDC est une bonne initiative. Il salue ce sommet, mais il se demande à quoi serviront les résolutions ou les recommandations formulées à l'issue de celui-ci, d'autant plus que les pays qui ont pris part sont ceux pointés du doigt comme soutenant le M23. Je vois en cela une très bonne manière de distraire le peuple congolais. Placide Ushirishane de Bunia en province orientale l'ajoute en disant ceci, la CIRGL n'apportera jamais des solutions aux problèmes de la RDC car ce sont les mêmes pays membres qui sont les véritables terreurs des ficelles de la déstabilisation de la RDC. Je pense que la solution serait de restructurer l'armée nationale qui a la mission de défendre l'intégrité territoriale ainsi que les différents services de sécurité du pays. Comment vous réagissez, Baudouin Amouli?
Bon, ma première observation, c'est que d'abord, les chefs d'État n'ont pas pris de recommandations, ils ont pris des décisions. Donc, c'est très important. Les décisions engagent tout le monde. Les décisions sont à exécuter. Donc, ce n'est pas seulement des recommandations. Les ministres doivent exécuter ces décisions. Les gouvernements doivent exécuter ces décisions. Donc, ce sont des décisions, ce n'est pas des recommandations générales. Non, ce sont des décisions applicables tout de suite. Et les chefs d'État ont donné un calendrier. Ils ont demandé un rapport dans les 15 jours qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que les ministres des Affaires étrangères doivent se mettre dès maintenant au travail. Et d'après ce que le professeur Toumbalaba m'a dit, les ministres de la Défense vont descendre sur le terrain. Donc, travail commence dès maintenant. Donc, il n'y a pas de délai à cela.
Alors, deuxièmement, oui, rapidement.
On dit que c'est de la distraction. Je crois que ce n'est pas de la distraction. C'est irresponsable de parler de distraction.
Et que le pays, qui soutiennent les M23 sont ceux qui prennent part à ce sommet. C'est dans ces auditeurs, quoi.
Nous sommes... La conférence des Grands Lacs est tout un processus qui est lié par un pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Dans ce pacte, il y a le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Nous avons évoqué ce pacte depuis le début de la crise jusqu'à maintenant. Nous avons évoqué ce protocole et nous avons montré que, effectivement, avec les évidences que le gouvernement de la République avait et qu'il a porté à la communauté internationale, effectivement, le pacte était violé et qu'il était important que l'on puisse tirer les conséquences de cela et qu'on puisse nécessairement attirer l'attention sur les actes qui violent le pacte et interpeller ces États.
Merci.
Je crois que le travail que nous avons fait a permis d'interpeller le Rwanda, a permis d'interpeller tous les États de la région sur l'urgence du respect de l'intégrité du territoire de la RDC.
Merci, Baudouin Amouli.
De pouvoir aider la sécurité. Donc ce travail a été fait.
Merci, Baudouin Amouli.
Et l'espace...
Monsieur Amouli, s'il vous plaît.
Effectivement, parler.
Merci, Monsieur Amouli. C'est un débat. Nous avons d'autres invités dans ces débats. Excusez-nous de vous retirer la parole. On va vous la redonner après. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, je rappelle que vous êtes vice-président national du Parti libéral pour le développement. Vous êtes le point focal de la coalition des partis d'opposition au Nord Kivu. Comment vous avez accueilli les décisions des chefs d'État et de gouvernement à ce sommet de Kampala?
Merci, madame, pour cette occasion que vous nous donnez afin de pouvoir débattre sur une question aussi encore importante pour la sécurité de notre pays. Alors, je vous parle, je suis à Kampala, en Ouganda, où s'est tenu les sommets. Et je dois signaler que au terme de ce sommet, un communiqué a été signé par les États membres et quelques recommandations ont retenu notre attention, notamment lorsque dans le communiqué, on fait allusion à des actions vigoureuses pour mettre fin à la guerre. Il s'agit d'une recommandation, bien sûr, qui est très, très importante, surtout pour la population congolaise, victime des affres de la guerre. Je pense ici à tous les milliers de déplacés qui se retrouvent dans les camps de déplacés à gauche, à droite. Mais il faudrait se poser la question sur la vraie perception de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est là, je dis que ces sommets des chefs d'État, qui étaient les sommets de tous les espoirs pour le peuple congolais, a accouché sur une souris. Une souris tout simplement parce que, s'il faut tenir compte de l'évolution des choses, le ministre des Affaires étrangères était à Addis Abeba, c'était au mois de juillet, et c'est à cette occasion que le président Kabila s'est rencontré avec le président Kagame dans une rencontre où ils ont prévu la mise sur pied d'une force maître. Un mois après, nous serons au sommet de Kampala où je suis en ce moment. Le résultat maigre du sommet de Kampala, c'est qu'on a juste adopté le principe de la mise sur pied d'une force maître. Alors que le peuple congolais tout entier qui nous suit en ce moment pensait qu'il s'agirait de mesures concrètes afin de mettre fin à la guerre. Mais nous constatons que le sommet de Kampala ne sert pas à mesure de mettre fin.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, Maître Lumbulumbu, s'il vous plaît, essayez de bouger un peu parce que le réseau n'est pas très bon là. On vous capte difficilement.
Ah oui, là ça va maintenant.
Ça s'améliore un tout petit peu. Allez-y.
Oui, je disais donc que la perception de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, je pense que cette perception est vraiment erronée pour le gouvernement. Parce que s'il faut réduire la question de la perception de la crise à l'air de Congo au M23, je pense que c'est aller en dehors de la plaque parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier cette crise. C'est notamment la mauvaise gouvernance, la corruption, l'impunité, la justice à double vitesse, la mauvaise gestion des différentes crises et surtout, il faut insister sur la fraude massive et le manque de transparence dans les élections du 28 novembre 2011. Je pense que même s'il faut mettre en place la force neutre telle qu'elle a été prévue par les chefs d'État et de gouvernement issus du sommet de Kampala, dès lors qu'il n'y aura pas une intégration de tous les leaders politiques, notamment les leaders de l'opposition et de la majorité, au sein d'un gouvernement d'union nationale, l'on peut amener la force neutre, mais les gens ne vont pas mettre sur la même longueur d'onde et il sera difficile pour cette force de pouvoir évoluer et de pouvoir résoudre la problématique de la crise à l'est du pays. Nous pensons qu'il est préalable. L'on peut bien tâtonner, on peut avoir des initiatives sur le plan régional. Nous apprécions à juste titre les initiatives qui sont prises sur le plan régional, mais sur le plan local, c'est là que se retrouve le gros du problème. Et je suis d'avis que l'envoyé spécial Olusegun Obasanjo, et qui devra effectuer une mission dans la ville de Goma pour s'en rendre compte, va constater que la crise congolaise n'a pas seulement une dimension régionale, elle a d'abord et essentiellement une dimension interne. Donc il faut d'abord résoudre le problème de fond à l'intérieur même du pays, notamment les problèmes de crise, les problèmes de corruption, de fraude, avant de pouvoir envisager la solution sur le plan régional. Et que donc, lorsque le monsieur Kabarouza essaie de vanter les communiqués du sommet, c'est à juste titre parce qu'il est responsable de la CIEG, mais pour le peuple congolais qui nous suit en ce moment, qu'on aille à Addis Abeba, qu'on aille à Kampala, qu'on aille à Nairobi ou qu'on aille aux États-Unis d'Amérique, le peuple congolais a besoin de la paix. Et nous aurions bien voulu que dans ce communiqué, on proclame la cessation immédiate des hostilités de manière à ce que les facilitateurs au second Obasanjo puissent directement entrer en contact avec les parties belligérantes afin de trouver les crises, les causes profondes de la crise à l'est de la République démocratique du Congo.
Maître Jean-Paul Mouloumbou,
ce sommet aboutit à un échec et nous ne sommes pas sûrs qu'en ayant une année, le sommet sera déjà en mesure de mettre sur pied une force internationale dans nos redoutants de la composition et la provenance du budget.
Maître Lumbulumbu, on comprend par là que vous n'êtes pas satisfait des décisions de ce sommet, mais lorsque les chefs d'État décident de mener des actions vigoureuses, est-ce que ce n'est pas une façon de faire cesser cette rébellion ou cette guerre au Nord Kivu?
Ben écoutez, il y a des déclarations d'intention de part et d'autre que nous saluons, ce n'est pas mal de déclarer. Mais vous savez, les chefs d'État africains nous ont habitués à des déclarations, à des simples déclarations d'intention. Le peuple congolais en ce moment n'a pas besoin de déclarations d'intention. Les milliers de déplacés qui se trouvent dans le camp de Kanyaruchi, de Mugunga, un peu partout, n'ont pas besoin de déclarations d'intention. Ils ont besoin des actions concrètes. Ils ont besoin de voir la paix revenir afin qu'ils puissent regagner leur milieu d'origine. Et lorsque les chefs d'État se limitent à des actions, à des détentions, les déclarations d'intention, encore qu'il est signalé que c'est dans un mois encore que les ministres de la Défense des différents pays qui ont été désignés doivent se réunir afin de proposer aux chefs d'État la composition, notamment de cette force neutre, allez-y comprendre, madame, que ça peut prendre plus d'une année que cette force arrive en mer du Congo, pendant que la population congolaise, ces milliers de déplacés qui se trouvent dans le camp. En Ouganda, ici, par exemple, nous avons eu le privilège d'aller visiter les camps de réfugiés qui se trouvent, les camps de Kiaka 1, Kiaka 2, Nakivale, Changwali, Orima. Il y a près de 83 000 réfugiés congolais qui sont en Ouganda et qui ont fui les hostilités. Je pense que pour le peuple congolais, il faut des actions concrètes. Le peuple congolais a besoin tout simplement des actions concrètes et non pas des déclarations d'intention jusque-là, parce que nous n'avons pas foi que même pendant un mois, le un mois qui est prévu pour que le ministre de Défense se rencontre encore à Addis Abeba, qu'à l'issue de cet un mois, finalement, la force neutre sera là.
Merci.
Et même cette force neutre, dès qu'elle devrait venir, franchement, madame, je pense que le problème, il faut le résoudre également à l'interne. C'est pourquoi nous avons toujours fait un appel à l'intégration de toutes les forces, la majorité, l'opposition,
qui
devraient se mettre ensemble afin de penser les vraies raisons de la crise.
Merci, maître Jean-Paul Lumbulumbu. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Comment vous analysez les décisions prises au cours de ce sommet de Kampala?
Bien, madame, merci beaucoup pour la question. Il y a d'abord des constats qu'il faut faire. Au-delà de ce que Maître Lumbulumbu vient de dire, il a effleuré l'essentiel d'éléments à l'interne qui doivent être régulés. Mais il faut d'abord dire que la nouvelle résurgence de la guerre de l'Est, c'est une sanction d'un échec antérieur et aujourd'hui, il doit être utilisé comme un instrument de redressement futur. C'est-à-dire que la conférence a une existence, il y a un recul historique considérable et quand on voit les différentes décisions de cette conférence, on considère aujourd'hui que toutes ces décisions, toutes ces recommandations qui ont été faites n'ont pas été suivies et que le constat est clair aujourd'hui, il y a résurgence de la guerre à l'Est. Donc c'est le constat d'un échec et nous voulons aujourd'hui prendre cet échec, n'est-ce pas, comme un instrument de redressement futur. La deuxième chose, c'est que dans le communiqué final, très curieusement, on n'a pas vu la condamnation claire et explicite du Rwanda. Or, le Rwanda a été cité par un rapport de communauté internationale. C'est connu de tous, le Rwanda a été cité comme agresseur. Donc, nous devrions, en principe, si l'analyse a été faite froidement, à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette conférence, on aurait dû commencer par la condamnation du Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo, comme à la base de la déstabilisation de la RDC, de l'Est de la RDC. Or, il ressort très clairement que cela n'a pas été fait. Un autre élément, c'est que nous constatons à la lecture de tous ces résultats et que la République démocratique du Congo, victime de l'agression, semble être partie à ces sommets sans un plan de sortie, sans un plan clair de sortie, n'est-ce pas, de crise. Parce que les résolutions qui en sont sorties, apparemment, ce sont des résolutions que les autres nous ont imposées. Alors que nous qui sommes victimes de l'agression, apparemment, nous n'avons pas un plan. Nous n'avons pas soumis un plan de sortie de crise, soit c'est un plan qui a été soumis mais qui a été rejeté. Donc c'est encore un rapport de force qui se joue à l'intérieur de cette organisation et nous en sortons toujours affaibli. Ça, c'est encore un élément. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai appris que la République démocratique du Congo a proposé, n'est-ce pas, que le mandat de la MONUSCO change, tout simplement, au lieu de chercher une autre force internationale. Or, cette proposition a été rejetée par le Rwanda. Je ne vois pas pourquoi le Rwanda doit rejeter une force, alors que c'est la République démocratique du Congo qui cherche sa sécurité, qui cherche à mettre fin, n'est-ce pas, à la guerre à l'Est. Donc, c'est un peu suspect de voir que le Rwanda, qui est accusé comme agresseur, en même temps, il joue un rôle très essentiel dans ce sommet. Parce qu'il rejette la proposition de la République démocratique du Congo. Celle que la République a trouvée solide pour résoudre, tant soit peu, n'est-ce pas, le problème de l'Est. Donc, cette proposition a été rejetée et ce sont d'autres propositions, apparemment, d'ailleurs, ce qui était apparemment, qui semblent être inefficaces. Inefficaces pour une raison d'abord simple. Un, est-ce que le diagnostic a été complet? Est-ce qu'on est allé en profondeur dans l'étude de la guerre de l'Est? Nous constatons, de par la configuration tout simplement de cette conférence, il y a absence de la communauté internationale qui, de tout temps, et c'est connu chacun individuellement, même si on l'a pas évoqué, c'est connu de tout temps que ceux qui nous agressent sont soutenus par certaines puissances occidentales. Moi, je crois que pour renforcer ces décisions, il aurait fallu que la communauté internationale soit représentée, soit par un membre du Conseil.
C'est un sommet régional.
Écoutez, pour mettre sur pied la force neutre à l'Est, la force neutre à l'Est, nous sommes en train de recourir, n'est-ce pas, à l'Union africaine et au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça veut dire que nous sommes dans un système où les uns et les autres se complètent, n'est-ce pas, dans la mise sur pied, n'est-ce pas, des mécanismes pour mettre fin à la guerre.
Patron de la MONUSCO était quand même présent à ce sommet.
Oui, mais écoutez, il est très circonscrit, limité, n'est-ce pas, dans le cadre de sa mission, et je ne crois pas qu'il aille plus loin pour engager la communauté internationale. Donc, le Conseil de sécurité. Donc, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, on sent que la RDC est allée toujours en position de faiblesse dans cette négociation, et aujourd'hui, les décisions qui en sortent, je me demande de quelle manière ces décisions seront efficaces dans un bref délai, parce que c'est d'ici un mois que la force doit être mise sur pied, ou encore les propositions, n'est-ce pas, du Conseil, du Comité interministériel devra donner des résultats. Donc je considère effectivement que ce plan de sortie, la RDC qui ne s'est pas amenée avec un plan de sortie, donc a négocié en position de faiblesse, et je me demande finalement qui a été agressé et qui donne des propositions. En ce moment-là, on trouve un déséquilibre total et c'est une récomposition des rapports de force au sein de la sous-région et nous comprenons que la RDC joue toujours la défensive, on est toujours à la défensive et je crois que c'est un problème très sérieux. La deuxième chose, le deuxième volet de la chose, je crois que Maître
Lumbulumbu,
je crois, il a parlé, n'est-ce pas, du volet interne de la chose. Je crois qu'il y a des éléments essentiels qui doivent être remodelés, revus, pour que l'efficacité, n'est-ce pas, parte de l'intérieur de la République, plutôt que de compter, n'est-ce pas, sur les forces étrangères. Parce que le sacrifice suprême, c'est plus facile de le faire soi-même, pour son territoire, son pays, plutôt que un allié ou encore un voisin, n'est-ce pas, puisse le faire à votre place. Je crois qu'il y a 10 éléments essentiels que, d'ailleurs, Maître Kabarou, pour ne pas y revenir, Maître Lumbulumbu venait de dire tout à l'heure, à l'intérieur, il y a un problème, n'est-ce pas, de la démocratie, il y a un problème, beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, autour de la gouvernance, pour pouvoir souder, donc, rassembler la population et constituer une force à l'interne pour pouvoir jouer, n'est-ce pas, à fond dans ces jeux de rapport de force des États de l'Est.
Alors, Joseph Kongolo, il y a Yanis Mulumba de l'Inde qui dit ceci, nous revoilà dans un scénario sans lendemain, nous imposé par nos dirigeants. La solution n'est pas dans la force neutre, mais dans la réorganisation du système sécuritaire faible du pays. Car même si cette force arrivait à bout du M23 et FDLR, qu'est-ce qui garantit que d'autres ministres ne vont pas voir le jour après? À qui et à quoi allons-nous nous recourir cette fois-là?
Oui, évidemment, il a complètement raison. Nous disons toujours que l'essentiel du problème, c'est d'abord à l'interne. C'est-à-dire qu'on devra absolument reformer cette armée, en faire une armée républicaine, et non pas, si vous voulez, ces groupuscules d'armées, n'est-ce pas, incongrues, qu'on a essayé de rassembler. Je crois que ça, c'est une urgence aujourd'hui, de mettre sur pied une armée républicaine, n'est-ce pas, et mettre tous les moyens qu'il faut. Mais dans l'entretemps, nous sommes menacés à l'Est. C'est comme ça que nous recourons, n'est-ce pas, à tous les moyens. Quand nous sommes menacés, nous recourons à toutes sortes de moyens. La diplomatie est mise à profit ici, et nous saluons d'ailleurs quelques efforts du ministre des Affaires étrangères qui a essayé de contacter, qui a essayé de secouer ciel et terre pour pouvoir arriver peut-être à la suspension de la guerre. Or, l'objectif pour le Congolais, ce n'est pas suspendre la guerre, comme c'est le cas aujourd'hui, et nous craignons que ce soit le cas pour tous ces mécanismes qui sont mis sur pied pour suspendre la guerre et non pas mettre définitivement fin à la guerre. Donc, nous voyons que l'essentiel, n'est-ce pas, des décisions qui ont été prises risquent de suspendre la guerre pour un temps, mais pas mettre fin définitivement à la guerre, parce que le véritable diagnostic, la profondeur dont les causes profondes de la guerre n'ont pas été évoquées, et nous le voyons à travers tout simplement les décisions qui sont sorties de ce sommet.
Deux autres réactions, Tchibalonza Lukula de Walungo Sud Kivu, le manque d'une solution pour stabiliser l'Est de la RDC à ce sommet profite de nouveau au Rwanda et à l'Ouganda. John Munganga d'Isiro en province orientale, le sommet de Kampala ne pouvait aboutir que si le Rwanda et l'Ouganda n'y avaient pas été invités. Brève réaction, Joseph Kongolo.
Bon, je sais que généralement, le sommet, c'est un aspect de la diplomatie internationale. Et la diplomatie, c'est toujours la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc, il faut considérer ici que le Rwanda, l'Ouganda, qui sont soupçonnés, enfin, pas soupçonnés, cités nommément, d'ailleurs, le Rwanda est cité nommément comme agresseur de la République démocratique du Congo, et le Rwanda, l'Ouganda est soupçonné aujourd'hui, je crois que la République démocratique du Congo ne peut pas s'interdire, n'est-ce pas, de mettre 10 moyens qu'il faut pour bouter l'ennemi dehors, plutôt que de faire confiance à 100%, n'est-ce pas, à toutes ces résolutions qui ont été prises, parce que le terrain n'est pas toujours facile. Je crois que la République démocratique du Congo devra réunir l'essentiel de ses forces à l'intérieur pour pouvoir bouter l'ennemi dehors, plutôt que de s'atteler tout simplement à toutes ces décisions de ce sommet.
Merci Joseph Kongolo. Comment les politiques congolais ont-ils accueilli les résolutions du sommet de Kampala? Les avis sont partagés, certains les estiment positives, d'autres par contre se montrent très pessimistes. On les écoute au micro de Samuel Kachak.
L'honorable Gaston Moussemena, député national et secrétaire exécutif national du PPRD, parti du chef de l'État. En tant qu'acteur politique congolais, je suis flatté par les bonnes intentions de quelques chefs d'État et chefs de gouvernement qui ont pris part à ce sommet, mais comme la majorité des Congolais qui connaît les intentions réelles de nos pays voisins, je reste sceptique quant à la matérialisation de ses bonnes intentions. Nous allons prendre chacun aux actes qu'ils vont réellement poser en faveur de la paix en République démocratique du Congo, parce que les Congolais n'ont que besoin de la paix chez eux.
C'est Martin Mukonkole de l'opposition politique congolaise. Quand bien même les différents chefs de l'État se sont retrouvés, ils ont décidé de mener des actions vigoureuses. Avec qui? Parce que nous connaissons que parmi les agresseurs, il y a les Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a tous ces pays voisins de l'Est. On va déclarer qu'il y aura des actions vigoureuses. Mais de quelle dimension? Avec qui? On les mènera avec quel pays? Parce que les mêmes agresseurs sont avec ceux-là qu'on va demander comment des actions vigoureuses. Mais il faut d'abord sécuriser et fidéliser l'armée congolaise. Il faut d'abord sécuriser et fidéliser les services congolais et à ce moment-là, vous verrez que nous défendrons proprement l'intégrité de notre territoire national.
Le sommet de Kampala n'a pas échoué. Ce qui a échoué, c'est l'idée même d'avoir pensé à la mise en place de cette force internationale neutre. Le péché est donc originel. Les germes de l'échec étaient contenus dans cette idée saugrenue de vouloir mixer ou superposer deux forces internationales dans un même espace. Et désespérément, le sommet préconise la mise en place d'un sous-comité qui devra proposer des éléments sur l'opérationnalisation de la force internationale neutre. Cela n'est qu'une façon diplomatique de dire qu'à l'impossible nul n'est tenu, parce que le débat ne se situe pas au niveau de l'opérationnalisation de la force, qui à mon sens n'est qu'une étape secondaire, mais plutôt sur la composition de cette force.
Honorable député Akira, Bionaï, Justin, député national, Élie Bouira, dans le Sud Kivu, et président du groupe parlementaire INC allié à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Congo a des acteurs politiques capables de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, ou désormais la République démocratique du Congo se présente dans tous les sommets, à genoux. Moi, je pensais qu'un pays comme l'Angola, qu'un pays comme le Kenya, qu'un pays comme la Zambie, qu'un pays comme la Tanzanie, c'est eux qui devraient être concernés principalement par cette force internationale d'interposition. Mais c'est pas l'Ouganda, c'est pas le Rwanda, moins encore la République démocratique du Congo, qui apparemment ne semblerait pas avoir d'armée. Donc, personnellement, j'ai une inquiétude que nous sommes toujours en train de recourir à des raccourcis qui n'apportent aucune solution définitive au sort des Congolais et au sort de la nation congolaise. Donc, je crois que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du tunnel.
C'est l'honorable Albert Fabrice Puela, député national élu de la ville de Matadi dans le Bas-Congo. En tant que Congolais, je ne peux que saluer ses efforts de pacifier le pays, mais tout simplement, je suis au regret de constater l'échec de la diplomatie congolaise, parce qu'il était entendu qu'on devrait mettre en place une force neutre pour traquer justement ces différents foyers de tension à l'est de la République et qui endeuillent chaque jour davantage le peuple congolais. Les Congolais ne demandent pas mieux que nous puissions vivre en paix.
Katumwa, je suis député national élu de la circonscription électorale de Kalimou, au Katanga. Je suis optimiste que si on y met beaucoup plus de sérieux, et on pourra avoir une paix durable dans la sous-région. Le problème, c'est qu'il faudrait que le Rwanda soit sérieux et sincère. Parce qu'il ne faudrait pas tout simplement se mettre autour d'une table et décider.
Baudouin Amouli, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Vous venez de suivre les politiques congolais. La plupart restent quand même assez sceptiques et même les réactions des auditeurs que nous avons ici. On salue le sommet, mais les gens restent quand même assez sceptiques quant à la matérialisation de ces décisions issues de ce sommet.
Je crois que les gens ont raison, là, parce que la crise se déroule encore, donc la crise n'est pas finie. Le souhait de tout le monde, c'est de voir la crise s'achever, et ça, c'est important. Ce que je veux dire, c'est que l'action du gouvernement n'est pas seulement une action en direction de la conférence des Grands Lacs. Il y a plusieurs autres actions qui sont entamées par le gouvernement. Et je pense que, comme cela a été dit par son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, il a dit clairement que la solution à ces problèmes est militaire, politique et diplomatique. Et donc, l'enjeu, c'est que le gouvernement doit travailler à la fois sur les questions militaires, sur les questions politiques et sur les questions diplomatiques. Donc, c'est toute la nation qui est vraiment mobilisée pour pouvoir travailler ensemble pour terminer cette crise.
Mais on a l'impression que la RDC, négocie en position de faiblesse, M. Kabarouzi.
Oui, nous avons quelques difficultés, bien sûr. Le fait que, effectivement, notre armée a quelques difficultés, cela oblige à la diplomatie de pouvoir prendre le relais assez rapidement pendant que notre armée se réorganise à fond. Donc, mais je ne pense pas que nous avons échoué. On ne peut pas déclarer l'échec de notre diplomatie maintenant. J'apprécie d'ailleurs M. Jean-Paul qui a bien relevé le succès, quelques succès que nous avons déjà eu au niveau diplomatique. Et nous continuons le travail.
Comment mettre fin finalement à cette guerre de l'Est? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre définitivement fin à cette guerre?
C'est ce que nous sommes en train de faire, madame. Laissez-moi d'abord terminer.
On n'a plus beaucoup de temps, il nous reste moins de 5 minutes.
Alors, je pense que très rapidement, le travail se fait non seulement au niveau de la conférence des Grands Lacs, mais nous faisons du travail au niveau de l'Union africaine, nous faisons du travail au niveau des organisations sous-régionales, nous faisons du travail au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, je crois, le gouvernement le fait, monsieur le ministre des Affaires étrangères le fait, et donc je crois que c'est important de savoir que c'est la conjugaison de toutes ces stratégies au niveau diplomatique qui vont essayer aussi de contribuer au résultat. Pendant ces temps, il y a du travail politique à faire. Mais je suis d'accord avec honorable Lumulumu, parce que lui, il relève bien la complexité du problème. Le problème n'est pas facile, le problème est complexe. Pendant que nous faisons du travail au niveau régional et international, il y a du travail au niveau interne qui doit être fait pour mettre définitivement fin à ce conflit. Donc,
merci.
Et ce travail au niveau interne est une démarche politique, comme le président de la République l'a dit.
Merci, Baudouin Amouli. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, réaction par rapport au point de vue des politiques que nous avons suivies. Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour mettre définitivement fin à cette guerre qui a trop traîné?
En fait, je pense que pour mettre fin à cette guerre, au niveau de la province du Nord-Kivu, il y a des initiatives initiatives locales qui sont en train d'être prises, parce que en fait, ce sont nos familles qui sont les premières victimes. Et nous avons mis sur pied une nouvelle dynamique que nous avons appelée la troisième voie, et qui regroupe un certain nombre de notabilités et personnalités de la province du Nord-Kivu qui ont essayé de transcender leur appartenance politique, leur appartenance religieuse, leur appartenance ethnique, afin de proposer la piste des solutions. Et pour cette dynamique de la troisième voie, il faut immédiatement cesser les hostilités d'abord, parce que le peuple congolais en a marre de la guerre. C'est depuis 1996 que nous avons des guerres récurrentes en République démocratique du Congo, avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence sur le plan des droits humains, sur le plan social, économique et sur le plan des infrastructures. Il faut immédiatement mettre fin à la guerre. Il faut par ailleurs que la conférence des pays des Grands Lacs puisse faire une évaluation profonde du pacte sur la sécurité et la stabilité. Parce que, madame, lorsque vous lisez le pacte sur la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs, vous allez avoir l'impression que la région des Grands Lacs serait une région la plus pacifiée, la plus développée du monde, mais c'est le contraire. Il faut procéder à une évaluation profonde parce que ça ne sert à rien pour le chef d'État d'apposer la signature dès lors que ce pacte n'est pas respecté. Le protocole de non-agression a été évoqué par M. Kamarouz, je salue, mais il faudrait se rendre compte également que dans ce pacte, il n'existe pas de sanctions. Comment allez-vous sanctionner les chefs d'État qui vont violer ce pacte? Mais également au niveau interne, nous proposons aussi qu'il puisse y avoir une occasion de mettre ensemble tous les filles et toutes les fils. Parce que la vraie raison de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, c'est à l'interne. Et pensez que c'est à l'extérieur de la
Maître Lumbulumbu, en conclusion.
Nous appelons le gouvernement à pouvoir favoriser la résolution de la crise à l'interne, cela de manière pacifique, et nous l'appelons urgemment à assister de la manière la plus conséquente les déplacés internes qui se retrouvent dans les camps déjà dispersés.
Merci, Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Joseph Kongolo, je vais vous demander de conclure aussi.
Oui, la paix durable en RDC, c'est quand la RDC aura une armée dissuasive. Alors, et en ce moment-là, on va donner lieu peut-être à un climat d'entente et de détente dans la sous-région. Mais je crois franchement que le gouvernement devra aussi tenir compte des arguments solides, n'est-ce pas, des fils du pays. J'ai vu le professeur Malala qui donne des arguments qui sont très solides, qui doivent être exploités. J'ai vu le colistier de M. Caméré qui a donné aussi un plan de sortie sur Télé 50. Je crois qu'il y a des arguments solides qui sont dans la population. Il suffit de les capitaliser et constituer un document de sortie, de crise. Je crois que la République devra aussi assurer une sorte de monitoring sur toutes ces idées qui viennent, qui fusent à gauche, à droite. Merci. Quand on est à la radio, on sent franchement que la population est suffisamment informée. Ils ont des arguments solides. Donc Merci. Je crois qu'il y a un travail à ce niveau, de mettre, n'est-ce pas, tous ces éléments ensemble et faire un document de sortie qui peut
Merci
être plus efficace.
Merci, Joseph Kongolo Baudouin Amouli, en 15 secondes, votre conclusion.
Je crois qu'il faut faire confiance dans le gouvernement et la capacité du gouvernement de faire face à cette crise et de ramener la paix. Je pense qu'il faut faire confiance dans la population congolaise. Je crois que la société civile, les acteurs politiques sont en train de faire des propositions. Je pense qu'on va avancer ensemble.
Merci.
Je crois que à la fois le Nord Kivu et le Sud Kivu demandent des solutions intégrées.
Merci Baudouin Amouli. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.